Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques figure à l'Ancien Testament et c'est un livre que beaucoup de chrétiens ont parcouru, ont lu, peut-être relu, et se sont posés à son sujet bien des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Que puis-je y trouver pour moi dans ce livre? Il faut se redire, c'est la parole de Dieu comme le reste. Mais la parole de Dieu, qu'exprime-t-elle dans ce livre? Certains auteurs protestants, Jean de Saussure, qui était l'héritier d'une famille suisse, venue d'ailleurs anciennement de France, qui est bien connu dans le domaine de la science et de la philosophie, et on peut dire aussi de la théologie. Jean de Saussure a dit ceci. La tâche de la prédication chrétienne est d'expliquer l'ensemble de la parole de Dieu afin que les fidèles en aient une intelligence aussi complète, aussi juste et aussi profonde que possible. Vous voyez que lorsque je vous dis la Bible, nous l'appelons la parole de Dieu, mais nous ne la connaissons pas, et il faudrait la connaître, je ne suis pas le premier, bien loin, n'est-ce pas? La tâche de la prédication chrétienne est d'expliquer l'ensemble de la parole de Dieu, non pas une partie seulement, non pas ce qui est facile, mais l'ensemble de la parole de Dieu, parce qu'elle constitue un tout. Si je n'explique toujours que certaines parties, et alors il y aura des lumières et des ombres, il faudrait que tout fût lumière. Qu'est-ce que ce livre, le Cantique des Cantiques? Cantique des Cantiques, déjà sa désignation nous le présente comme un chant, un cantique, un chant, qui l'emporte sur les autres. C'est le cantique par excellence. Le livre entier constitue un seul poème, Cantique des Cantiques. On a voulu, je dis ça, on a voulu, n'est-ce pas, voir dans le Cantique des Cantiques une série de poèmes. C'est faux, c'est un seul poème. Oh, que d'erreurs n'a-t-on pas écrit au sujet de ce livre, que les juifs pieux de la synagogue, c'est-à-dire les juifs pieux de ce noyau israélite qui a gardé la parole de l'Ancien Testament avec piété, avec crainte de l'Éternel, disait, c'est le joyau des Écritures, c'est-à-dire le joyau de l'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, c'est un superlatif en hébreu qui correspond à le Saint des Saints, le lieu, vous savez, le deuxième lieu du tabernacle. Après le lieu saint, il y avait le lieu très saint, qui est appelé aussi le Saint des Saints. Et l'expression dans la Bible se retrouve, cette forme d'expression, par exemple, esclave des esclaves dans la Genèse, le chef des chefs dans le livre des Nombres. Je vous signale cela seulement en passant, n'est-ce pas, pour vous montrer que c'est un superlatif. C'est le chant par excellence, le cantique par excellence, le cantique du bien-aimé. Nous le reverrons d'ailleurs cela. Pour vous montrer combien les hommes ont altéré la parole de Dieu, déformé, et ont manifesté dans une grande science, enveloppée s'il vous plaît dans une très haute science théologique, déformé ce beau livre, voici ce qu'a dit Édouard Ross, qui est l'auteur d'une traduction de la Bible tout entière, traduction en français, avec des commentaires. Cela occupe 20 volumes qui font à peu près cela sur la tablette de la bibliothèque. J'ai cette traduction en entier. N'en suis pas plus fier pour cela, n'est-ce pas? Parce que voici ce que Edouard Ross, dans sa Bible commentée, écrit en sous-titre du Cantique des Cantiques. Il a cru bon de mettre « Recueil de poésie érotique ». C'est un théologien qui est cité, et qui est cité même par Frédéric Godet. Un théologien qui se tient entre plusieurs eaux, n'est-ce pas? Mais enfin souvent dans des eaux mauvaises. Érotique, n'ayons pas peur du mot, n'est-ce pas? Parce que les personnes qui sont absolument en dehors de l'expérience chrétienne, de la foi, de la communion, sont tentées de voir cela, n'est-ce pas? Eh bien, ce livre est pourtant tout autre chose que cela. Il est l'histoire intérieure d'une âme régénérée depuis sa conversion. Depuis sa conversion, bien sûr, il ne peut pas être question d'avant. Si, il en sera question dans le poème, il sera question des temps d'avant, mais pour les rappeler brièvement seulement. Depuis sa conversion jusqu'au moment où, se détachant de la terre, cette âme apprend à regarder son Seigneur et à n'en plus détacher ses yeux, c'est-à-dire son cœur. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Alors, elle a porté ses regards, elle ne peut plus les détacher. Voilà déjà, n'est-ce pas, l'âme régénérée. Je prends l'interlocutrice, si vous voulez, du poème. Nous allons voir qu'il y a deux personnages, il n'y en a pas trois. Je vais combattre l'interprétation à trois personnages. Malheureusement, cette interprétation a pénétré dans les rangs évangéliques et dans les nôtres. Je vais conseiller avec tout l'amour dont je vais m'efforcer d'être capable à mes frères, à mes sœurs, d'abandonner absolument cette interprétation à trois personnages. Et je le dirai tout à l'heure pourquoi. La Sulamite, nous verrons qu'elle s'appelle ainsi. Il y a là, n'est-ce pas, une jeune femme et un homme, un jeune homme, le bien-aimé, le roi. Et cette jeune femme a appris à regarder son Seigneur, mais cette jeune femme, elle représente, elle personnifie, si vous voulez, l'âme rachetée qui a porté les regards sur son Seigneur. Il y a entre le racheté de Dieu et le Seigneur qui est esprit, le Seigneur pour nous est esprit, il y a entre l'âme rachetée quoi donc? Il y a quelque chose. Ou alors il n'y a pas de conversion. Il y a une relation. Il y a une relation qui est mystérieuse. Une relation d'esprit. Une relation entre l'âme et le Seigneur, l'esprit, qui connaît des vicissitudes, qui connaît des instabilités. Le chrétien qui me dirait, moi, depuis ma conversion, je suis en communion avec le Seigneur et ça a été parfait, égal, il ne s'est jamais rien produit. Je dirais, je doute que l'expérience ait été réelle. Il y a des instabilités, on pourrait presque dire, qu'elles sont nécessaires. Nécessaires à notre formation. L'âme rachetée va passer par des épreuves, par des moments de tristesse, ne vous en effrayez pas, mes amis. Vous les connaissez, puisqu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui nous font part de cela, des moments de tristesse, quelquefois des moments même de désolation. Mais tout cela, ce sont des épreuves. Des épreuves pour le bien de cette âme rachetée, c'est pour son bien. Et puis, cette âme rachetée commet des fautes qui obligent l'époux céleste à s'éloigner d'elle, à s'éloigner. Elle commet des fautes. Oh, il ne s'éloigne pas pour l'abandonner. Il ne l'abandonne pas, mais il s'éloigne. Voici que la communion est distendue. On ne sent plus la relation, le lien, et pourtant on est l'âme rachetée. Je suis belle, mais je suis noire. Nous verrons cela. Elle passe par divers états intérieurs. Le repentir, nous le trouverons dans le cantique. Le désir ardent de retrouver son premier amour. Son premier amour. Nous allons tout de suite l'aborder dans le commencement du cantique. Son premier amour. Ah, ce premier amour, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ce premier amour, quand elle s'aperçoit qu'il a été distendu, alors elle soupire à le retrouver. Le cantique des cantiques présente donc les relations d'une âme avec son Seigneur, ou alors, et c'est la même chose, vous voyez, je procède par plans différents, une relation de l'Église tout entière avec le Seigneur, qui est son chef et qui est son futur époux. Je vous ai fiancé à Christ, son futur époux. Et rappelez-vous ce que disait Jean-Baptiste. Il se voyait comme l'ami de l'époux, mais l'épouse appartient à l'époux. Lui n'était pas l'époux, fut l'ami de l'époux, et non pas l'époux, l'épouse. Oh, attention! Je suis là pour la conduire à son époux. Ainsi, ce sont des expériences spirituelles, des états d'âme que nous allons rencontrer dans le cantique. C'est un domaine étranger à toute philosophie humaine, à toute poésie humaine même, et ce livre s'adresse à ceux dont l'âme est réellement assoiffée de Dieu. Le cantique, c'est l'expérience chrétienne de l'âme assoiffée. Si quelqu'un a soif, a dit le Seigneur à Jérusalem, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que ça veut dire ça? Croyez-vous pas qu'il y ait de la force là? Si quelqu'un a soif, soif de Dieu, nous avons trouvé cette soif de Dieu dans les psaumes, s'il a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'Esprit seul nous permettra donc de goûter ce livre. Je vous recommande dans ces jours, mes amis, personnellement, d'être dans un esprit de prière. Si vous voulez faire votre profit personnel de l'étude, il faut que vous soyez dans un esprit de prière. Je ne vous apporte pas des connaissances humaines, mais une connaissance divine. Et cette connaissance, je ne peux que vous aider à la trouver vous-même, n'est-ce pas, dans les pages de ce livre, par le moyen de l'esprit. Il faut donc pouvoir goûter ce livre, comme il faut goûter le don céleste d'une expression de l'Écriture, goûter que le Seigneur est bon, il faut goûter par l'âme, que voulez-vous? Si l'on ne goûte pas, je ne peux pas, moi, goûter pour vous. Je peux goûter pour moi. Mais je ne peux pas goûter à votre place. Il faut que chacun puisse goûter le don céleste, goûter que le Seigneur est bon. On peut se dire évidemment scandalisé des images que le Saint-Esprit a utilisées, car c'est bien lui, le Saint-Esprit, pour représenter les relations mystérieuses dont je parlais tout à l'heure, de l'âme rachetée à Dieu. Parce que ces images sont empruntés à l'amour qui se situe au niveau humain. Je ne dis pas pour ça qu'il soit à flétrir et à rejeter, mais le Saint-Esprit s'est servi de l'amour entre fiancés, entre des fiancés, des futurs époux. Alors, Il y a des gens, n'est-ce pas, qui se sont trouvés peut-être un peu scandalisés de trouver ça dans la Bible. On a même discuté, fut un temps, sur la canonicité du Cantique des Cantiques. Pouvait-il être reconnu comme vraiment appartenant à la collection des livres inspirés? Alors, si cela était, il faudrait dans le prophète Ézéchiel supprimer des chapitres où alors le langage est peut-être plus cru encore que dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 16, par exemple, d'Ézéchiel, n'est-ce pas, quand il s'agit d'une femme prostituée qui s'est livrée à ses amants. Ah, il faudrait peut-être supprimer cela, il faudrait supprimer bien d'autres choses. Mais je ferai justice de cela, et je dirai d'abord ceci. Il est écrit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ceux qui ne sont pas purs, oh, sont enclins à la pudibonderie. Ils sont enclins à se montrer comme des pudibons. Les pudibons, ce sont des hypocrites, mes amis. Ce sont des hypocrites. Ah, il ne s'agit pas de céder au penchant de notre époque, bien sûr, le penchant à l'érotisme, ce serait alors de l'impudicité qui est châtiée dans toute l'écriture. Mais entre l'impudicité et la pudibonderie, il y a tout de même un juste milieu. Et puis, ce juste milieu, Dieu le connaît. Je reviendrai un peu sur cet aspect des choses. Dans un instant. Certains commentateurs ont alors enlevé au Cantique des Cantiques toute sa valeur spirituelle pour le réduire à un crûment, disons, à son sens littéral. N'ont vu que le sens littéral. Et ils y ont vu un poème lyrique chantant l'amour nuptial, un poème lyrique chantant cet amour nuptial pour lui-même. Ils y ont vu un épithalame, c'est-à-dire ce chant nuptial. Ils ont même trouvé les protagonistes, c'était Salomon et la fille de Pharaon. Ah, ils ont de l'imagination, n'est-ce pas? Un certain auteur allemand, Frédéric Krummacher, qui était pasteur évangélique au XIXe siècle, a dit que le Cantique des Cantiques a été attaché au pilori dans le forum littéraire par le rationalisme. C'est bien ce que nous verrons de l'œuvre d'Ernest Renan. L'interprétation d'Ernest Renan qui s'est faufilée à la faveur d'un petit ouvrage dans nos églises et dont on a retenu le thème. Alors c'est là que je vous dis, je ne suis pas d'accord et je ne peux pas être d'accord avec l'interprétation d'Ernest Renan. Le mot de Krummacher est juste, le Cantique a été attaché au pilori dans le forum littéraire par le rationalisme. Parce que l'homme incrédule ne comprend rien aux choses de l'Esprit de Dieu, c'est Paul qui le dit, il ne comprend rien, il choisit toujours. L'homme incrédule, il choisit la vue naturelle, la pensée de l'homme. Il choisit le néant et ne trouve pas la vie dans la Bible. Mais Jésus nous a donné la clé de la science. C'est là qu'il faut se servir de la clé de la science. La clé de la science. Dans Matthieu, au chapitre 13... Il y a une parole du Seigneur extrêmement intéressante, Matthieu chapitre 13 et verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a quelque chose dans le cœur, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. par ce qu'on lui donnera. Il sera dans l'abondance, il a déjà quelque chose, celui-là. Alors on va lui donner l'abondance. Mais celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. L'incrédule qui vient avec une petite, un petit intérêt pour la Bible, eh bien, on va lui ôter même cet intérêt-là. Il est néfaste. Il faut donner sa vie, il faut donner son cœur. Il faut se donner soi-même, ou rien. Tout ou rien. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas Dieu et Mammon. On ne marche pas d'un pied d'un côté, un pied de l'autre. Ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Dans son amour, dans sa sainteté, Dieu ne peut pas accepter un tel partage. Un cœur partagé, on ôte ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Eh bien, des théologiens ont regardé cela avec les yeux de leur intelligence, ils n'ont rien compris. Ils ont cloué au pilori du forum littéraire ce beau livre de la Bible. Les mystères du royaume des cieux. Nous allons être en plein mystère, au cœur du mystère du royaume des cieux, c'est-à-dire de ce royaume qui, maintenant, s'établit dans les vies, dans les cœurs. Dans le Cantique des Cantiques, on trouve donc plus qu'ailleurs cette rivalité, cette opposition de deux esprits. L'esprit des incrédules ou l'esprit des théologiens qui sont des rationalistes par conséquent, disons des incrédules, et puis l'esprit de ceux qui ont un cœur ouvert. Ceux qui sont avides, ceux qui ont soif, alors ceux-là seuls comprendront. Pour comprendre le Cantique des Cantiques, il faut donc écarter le littéralisme exclusif. Je ne dis pas qu'il faut écarter le littéralisme entièrement, c'est-à-dire la lettre, c'est-à-dire ce que signifie chaque verset, chaque mot. Pas du tout. Mais il ne faut pas s'en tenir au littéralisme exclusif. L'interprétation allégorique, voire dans chaque proposition, dans chaque mot, dans chaque figure, n'est-ce pas, une allégorie, et être alors allégoriste à l'excès, exclusif, n'est-ce pas, ça aussi c'est mauvais. Et le littéralisme exclusif est mauvais, et l'interprétation allégorique exclusive est aussi mauvaise. Vous voyez comme il y a toujours deux excès, un d'un côté, un de l'autre, et qu'il faut savoir se tenir là, dans le juste milieu de Dieu. Il faut prendre au sérieux le sens littéral. C'est comme ça que nous allons interpréter le Cantique des Cantiques, nous allons le prendre au sérieux, tout en saisissant la signification spirituelle de ce beau livre. Et pourquoi est-on quelquefois choqué? Et parce que on voit beaucoup dans le Cantique des Cantiques, en somme, l'amour sous la forme tout à fait humaine, et on y voit, surtout, n'est-ce pas, les pudibonds, ils discernent l'amour physique. Ah, ils sont platoniques, eux, à l'excès. Alors ils y voient poindre l'amour physique, ils sont offusqués. Ils sont très offusqués. Mais je dirais ceci, le corps, notre corps physique qui est fait de matière, n'est pas l'ennemi de l'esprit. N'est pas l'ennemi de l'esprit. Il est le serviteur de l'esprit. Il est l'instrument de l'esprit. Il est l'organe de l'esprit. Et le rôle de ce corps, dont il nous est dit qu'il est le temple du Saint-Esprit, le rôle de ce corps est d'exprimer, d'annoncer, d'accomplir dans le monde sensible et visible la volonté de l'Esprit. Et le corps, est utile, il a été donné par Dieu. Il nous est bien recommandé dans le Nouveau Testament de ne pas le mépriser, de ne pas le négliger. Or, dans un certain christianisme spirituel, faussement spirituel, qui spiritualise tout, j'ai déjà dénoncé cela, alors on a complètement méprisé le corps. Ça, c'est parti déjà des premiers âges du christianisme. Le but de Dieu, c'est de faire prendre corps à l'esprit. Il a fait l'homme, esprit, âme et corps, et le corps est là pour être au service de l'esprit. En somme, Dieu a voulu faire prendre un corps à l'esprit, mais l'esprit devait être maître et dominer sur ce corps. Voilà ce qui fait, n'est-ce pas, que le corps est peut-être tout entier tenu dans une mission spirituelle. Et ce que je dis là, que Dieu a voulu faire prendre corps à l'esprit, eh bien, nous l'avons, n'est-ce pas, dans l'incarnation. Dieu a voulu que la parole de Dieu, qui est esprit, qui était Dieu, qui était avec Dieu, la parole d'esprit, devint chair, fut faite chair. Ah ! Et un grand secret vient de cela. Et dans l'Ancien Testament qui prépare l'avenue de celui qui va être incarné, Yahvé, le Seigneur, l'Éternel, qui va venir au milieu des saints, qui va être l'Emmanuel, eh bien, c'est la volonté de Dieu que la parole soit faite chair. Et c'est la volonté de Dieu que l'Esprit puisse se manifester par des corps, dans des corps. C'est la volonté de Dieu. Alors maintenant, n'est-ce pas, éloignez votre corps, parce que tout ce qui touche le corps est indigne de la haute spiritualité. C'est faux, cela. La Bible n'est jamais inconvenante, même quand elle nous dit, comme dans Ézéchiel, qu'elle nous montre, n'est-ce pas, Jérusalem ou Samarie sous l'emblème d'une femme prostituée, puis alors, vous savez, ce qui est dit, c'est net. Je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, tu t'es prostituée à tous tes amants. Eh bien, la Bible n'est jamais inconvenante. Parce que, remarquez ceci, c'est qu'elle parle de tout avec naturel. Elle regarde l'homme avec les yeux de Dieu. Elle regarde l'homme dans son intégrité première et voit l'homme qui est sorti de cette intégrité première. Et elle flétrit cela par les termes qui conviennent. Le péché, où est-il le péché? Est-il de regarder les choses qui peuvent se dérouler dans le domaine physique, dans le domaine du corps, dans le domaine de la chair? Non, le péché consiste à séparer ce que Dieu a uni, à séparer le mari de l'épouse, à séparer le fiancé de la fiancée, à séparer l'âme du corps, l'esprit du corps. Dieu a uni. Pourquoi séparerions-nous? Vous voyez que cette séparation, n'est-ce pas, d'une interprétation pudibonde est absolument néfaste, contraire. C'est pas pour autant qu'on va tomber dans les excès, n'est-ce pas, de l'amour qui n'a plus Dieu, qui n'a plus de fût et qui est une passion. C'est pas ça. Seule la Bible peut servir le spirituel authentique. Nous voulons du spirituel authentique. Eh bien, fions-nous à la Bible seule. On a voulu qu'il y ait trois personnages dans le Cantique des Cantiques. Alors, ces trois personnages, c'est la jeune femme qui se nomme la Sulamite, c'est aussi Salomon, vu comme le roi, il est le roi, et puis un certain berger, un certain bien-aimé, ah, celui-là, c'est le vrai fiancé de la Sulamite. Et puis Salomon, on le voit dans cette interprétation à trois personnages, on le voit comme le séducteur, l'infâme séducteur. Parce que on a lu dans, évidemment, l'Ancien Testament que la fin du règne de Salomon avait été vraiment souillée. Ah. Il n'avait, lui, alors, d'aspiration que pour cet amour qui se traînait de femme en femme. Il lui fallait des quantités de femmes. Alors, c'est un séducteur. Un séducteur. Et on a mis le séducteur dans le cantique des cantiques qui chante l'amour divin, mes amis. Alors, cette interprétation à trois personnages est entrée, bien sûr, dans les rangs évangéliques, hélas, par un petit livre qui comprend à la fois, un petit livre de Frédéric Godet, qui comprend à la fois le livre de Job et le Cantique des Cantiques. Vous avez dû l'avoir, ça a été publié, je crois, par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce petit livre a été vendu dans les librairies, partout, aussi bien dans notre mouvement qu'ailleurs, il a été vendu, et alors lui, évidemment, n'est-ce pas, il adopte l'interprétation à trois personnages. Frédéric Godet a trouvé ça tout à fait bien. Vous savez, il s'est trompé plus d'une fois. Ça ne veut pas dire que ses ouvrages ne sont pas utiles à d'autres égards, mais il s'est trompé quand même plus d'une fois, n'est-ce pas. N'oublions pas que c'est lui qui nous a supprimé, a prétendu que le chapitre 8 de Jean, le début du chapitre 8, n'est-ce pas, les 11 premiers versets, n'étaient pas canoniques. Bon, vous savez, quand on commet des erreurs comme ça, n'est-ce pas, il faut tout de même prendre garde. Frédéric Godet est un théologien, un grand théologien, qui a de bonnes choses, il a une certaine foi, et puis à certains moments, il a une certaine incrédulité. Pas parce qu'il se fait homme de science. Il cède à la science, il fait des concessions à la science. Alors, cette interprétation à trois personnages est fausse. Savez-vous d'où elle provient? C'est pas le petit livre en question de Frédéric Godet qui l'a inventé. Elle provient d'un orientaliste allemand, dont je n'ai pas ici relevé le nom, mais il est dans le petit livre, un orientaliste allemand. Qui a imaginé cela, il a imaginé, n'est-ce pas, une espèce de pièce de théâtre à trois personnages. Et alors, monsieur Ernest Renan, qui, vous savez, ce grand écrivain du XIXe siècle, il est né en 1823 et mort en 1892, eh bien, Ernest Renan, qui parlait un langage, un français si pur, vraiment dans son livre sur Jésus, on y trouve véritablement là la pureté du langage. C'est un très bon écrivain, c'est un homme remarquable, non seulement comme écrivain, mais aussi pour sa documentation, pour ses connaissances. Seulement, il avait foi dans la science, et ses convictions étaient entièrement rationalistes et libérales, c'est-à-dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu pour lui. Son livre, « Les souvenirs d'enfance et de jeunesse », explique les circonstances qui très tôt lui ont fait perdre la foi, il le dit lui-même, il a perdu la foi. Et c'est à lui que l'on se rapporte pour l'interprétation du Cantique des Cantiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez, moi, je ne marche pas. Je ne marche pas. Et je voudrais, chers amis, je ne fais de procès à personne, bien entendu, mais je voudrais qu'on arrache ça. Ça, c'est une chose à arracher de notre milieu, ça. C'est un livre à condamner. Mais j'y allais par quatre chemins. Et je vous dis, oh ben, on pourrait prendre un petit peu ça. Non, il est mauvais. Écartons-le. Il est dû à Ernest Renan, un homme qui a perdu la foi. Il le dit lui-même. J'ai en bibliothèque ce livre « Souvenirs d'enfance et de jeunesse ». J'ai perdu la foi. Alors il est devenu rationaliste. Alors tout de même, c'est pas à lui qu'il faut se fier, n'est-ce pas, pour cette interprétation. Il y a dans le Cantique des Cantiques deux personnages, pas un de plus. La seule véritable interprétation, celle qui relève de ce livre, hein, le chant, véritable chant d'amour spirituel, ne met en jeu que deux personnages. La Sulamite, ah la Sulamite encore là, les rationalistes à la manière d'Ernest Renan ont pu dire, ah mais vous comprenez Sunem. Sunem a été appelé, je ne sais plus par qui, Sulem. Alors Sulem C'est de là que vient la Sulamite. C'était une habitante de Sulem. La Sulamite, c'est un nom plein de grâce et de douceur qui n'a rien à voir avec la ville de Sunem, prétendue appelée Sulem quelquefois. Pas dans la Bible, en tout cas. Et la Sulamite est un être féminin, une femme, une jeune femme, un être féminin, type. Un être type. Et elle est la réplique, entendez bien, la réplique féminine de Salomon. Ces deux noms, Sulamite et Salomon, dérivent de Shalom. Shalom, ça veut dire, cela va bien, vous savez, quand on se rencontre, Shalom, ça va bien, il y a prospérité, il y a paix, tout est parfait, tout va bien, prospérité, paix, on a souvent retenu paix, mais il y a tout cela, tout ce que je viens de vous dire. Alors Salomon, dont le nom dérive donc de Shalom, est le parfait, le pacifique. Et la Sulamite, puisque c'est le féminin de Salomon, et elle dérive aussi de Shalom, eh bien la Sulamite, c'est la parfaite. C'est celle qui a été pacifiée par Salomon. Elle a été pacifiée. Et voulez-vous que nous regardions dans le Cantique au chapitre 8 et au verset 10, chapitre 8 et verset 10. Là, il s'agit de la petite sœur, mais la petite sœur est de même provenance que la grande sœur, c'est-à-dire que la Sulamite. La petite sœur, c'est, si vous voulez, un troisième personnage, mais qui ne joue pas de rôle dans le corps du Cantique. Elle intervient simplement dans le dernier chapitre et tout à fait à la fin. Nous en parlerons de la petite sœur. Alors, chapitre 8, verset 10, pardon. Je suis un mur. J'expliquerai ça, ce que ça veut dire. Et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. C'est ça le sens de Sulamite à pacifier. Elle a trouvé la paix. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun portait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Si Salomon était un séducteur, je ne sais pas pourquoi on lui donnerait les 1000 cycles. Ça aurait vraiment un mauvais goût, ça. Un goût à la Ernest Renan. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Voilà le sens de ce beau nom de la Sulamite, un nom plein de charme et de grâce. Salomon, Dieu lui avait accordé un qualificatif à Salomon. Et nous le trouvons dans le deuxième livre de Samuel. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, et au verset 25. Relisons verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, et coucha avec elle. On pourrait dire que ce n'est pas correct de ça aussi, n'est-ce pas? Ah oui, alors il y aurait pas mal de corrections à faire dans la Bible, qu'est-ce que vous voulez? Comment Dieu, tout est pur pour celui qui est pur. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas fait de mystère. Alors, elle enfanta un fils qui l'appela Salomon. Salomon est donc le fils de Bathsheba, n'est-ce pas? La femme d'Uri, le Héthien. Elle enfanta un fils qui l'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Ah, le fils fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète. Il y avait un prophète pour s'occuper de Salomon. C'est pour ça que le diable l'a roulé ensuite dans la poussière et dans la boue, parce que c'était trop beau. C'était trop beau, Salomon. C'était la figure la figure du grand-fils qui allait venir s'asseoir sur le trône de David. David, le fondateur de la dynastie éternelle. Alors, le grand Salomon allait venir s'asseoir. Il y avait là tout de suite un Salomon qui préfigurait l'autre. Ah, c'était trop beau. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidja. Jédidja à cause de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Jédidja, ça s'est composé de Jadid, qui veut dire bien-aimé, et de Ja, Ya, de Ya, qui est l'abréviation de Yahvé, de l'Éternel. Si bien que Jédidja veut dire le bien-aimé de l'Éternel. Le bien-aimé de l'Éternel. Ah, monsieur Ernest Renan, croyez pas à ces choses-là. Il n'était pas sensible à cela, n'est-ce pas? Alors, laissons-le avec ses écrits et ses interprétations et ses imaginations. Et nous écoutons l'esprit Jédidja, le bien-aimé de l'Éternel. Chers amis, mais c'est bien là aussi le doux nom accordé au Seigneur, qui va venir et qui dira, il y a ici plus que Salomon. Les sentiments humains qui sont exprimés poétiquement dans le Cantique des Cantiques par le fiancé et la fiancée, nous verrons que le fiancé prend différents noms, différents aspects, il est le berger, il est le bien-aimé, il est le fiancé, il est le roi. Il est le frère, quelquefois, et nous justifierons tout cela. Il est le frère, quelquefois. Vous voyez? Eh bien, les sentiments humains qui sont exprimés représentent des affections d'un niveau supérieur, d'un niveau plus élevé. Ces affections, ces sentiments humains qui sont exprimés par un support humain. Le support, c'est ce poème d'amour entre deux fiancés, avec des vicissitudes, je l'ai dit. Alors, là, n'est-ce pas, ce support, ne regardons pas, regardons le support, bien sûr, il faut regarder quand on lit une parabole, il faut d'abord savoir ce qu'elle dit, n'est-ce pas, elle est le support d'une pensée, le support d'une idée. Et là, les sentiments représentent des affections plus élevées, plus sublimes, celles du Christ et de l'Église. Et les détails que l'on trouve, nous allons trouver un tas de détails dans le poème. C'est un poème, le cantique est un poème, bien sûr c'est un chant, c'est un poème. Eh bien, les détails n'ont d'autre utilité que de rendre l'image plus claire, plus vivante. Et nous voyons que dans ces paraboles, le Seigneur Jésus a mis aussi introduit des détails. Il introduit certains détails pour rendre l'image plus réelle. Mais ce qu'il faut voir, n'est-ce pas, c'est ce qu'il faut trouver, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est la vérité, c'est la réalité qui est exprimée par l'image. Si l'on en reste à l'image pour elle-même, alors on n'a rien trouvé. Je vais maintenant, je pense que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que je me représente que je dois un peu soumettre évidemment peut-être votre attention et puis votre cœur à une épreuve un peu rude, mais que voulez-vous, si l'on veut étudier la Bible, la parole de Dieu, faut aller plus loin. Faut pas rester au premier pas où l'on est. N'est-ce pas? Nous sommes entrés dans l'Église, dans le corps de Christ, sommes devenus l'âme rachetée, les âmes rachetées du Seigneur. Puis quoi? Il n'y a plus rien à faire, plus qu'à se reposer. J'ai déjà dit que l'évangélisation était une chose magnifique, excellente, il faut poursuivre, mais pas au détriment du progrès à réaliser dans la vie de foi, pas au détriment de cette marche vers la perfection. Paul voulant amener toute âme d'homme à la perfection en Christ. Alors, nous allons lire le chapitre premier, déjà, pas en entier, nous allons lire simplement les quatre premiers versets. Les quatre premiers versets. Cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Dans l'interprétation à trois personnages de Renan, alors il faut voir dans le roi ici un séducteur. Alors il prend la Sulamite, il prend les jeunes filles, n'est-ce pas, dans des intentions perfides. Des intentions charnelles. Voilà ce que nous dirait la Bible selon M. Renan. C'est lamentable. Et ici, c'est pourtant si beau. Connaissez-vous le psaume 45 ou verset, si vous voulez, 10 d'abord. Il faudra que ce psaume, d'ailleurs, nous l'ayons bien en mémoire. Nous y reviendrons. Verset 10. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie le passé. Tu as maintenant devant toi un champ nouveau, une route nouvelle. Oublie, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Par fille du roi, il faut entendre ici fiancée. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Il y a de la réjouissance, il y a de l'allégresse. Ça fait peur à Monsieur Renan, ça peut être. Mais, chers amis, de qui s'agit-il? Quel est ce roi? Dans le contexte du psaume, verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Qui donc est ainsi désigné, « Tu es le plus beau des fils de l'homme ?» Le Seigneur, le grand Salomon, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et c'est lui que nous voyons dans ce psaume, comme le roi qui porte ses désirs sur la beauté de cette fille qui lui est présentée dans l'intérieur du palais, dans ses habits brodés, entouré des jeunes filles, ses compagnes. Alors, là, devant le roi, elles introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans les palais du roi. Qu'avons-nous trouvé dans le commencement du cantique? Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime, n'est-ce pas la continuation du psaume 45? Et n'est-ce pas que le psaume 45 nous dit, il s'agit de celui à qui Dieu a dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Alors comment a-t-on pu céder, peut-on céder à cette interprétation à trois séducteurs qui introduit, à trois personnages qui introduit un séducteur? Foulez-moi les bras m'en tombent quand je vois ça. Ah, mes amis, enfin, tout de même, comprend-on la parole de Dieu, l'étudie-t-on avec attention, trois personnages? Mais non, il y en a deux et deux seulement. Salomon, qui est Jedidja, c'est-à-dire le bien-aimé de l'Éternel, préfigure Jésus en sa fonction royale. Il est déjà le plus beau des fils de l'homme. Et maintenant, dans le cours de l'Église, ce Seigneur est glorifié. Il prépare et il attend celle qui sera son épouse et qui va partager son règne, celle à qui il a donné la paix, l'a pacifiée, la Sulamite. Je vous ai fiancé un seul époux, et dans l'Apocalypse, nous avons là l'annonce des noces de l'agneau, et l'époux s'est préparé, paré de fin lin, et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Où sommes-nous là dans quelque chose qui soit à réprouver? Nous sommes là dans les hauteurs des vues spirituelles. Oui, et tout cela avec un support que nous ne dédaignons pas, un support où nous, dans lequel nous n'intruisons pas notre impureté à nous. Ceux qui interprètent mal le cantique introduisent leur propre impureté dans ce cantique. La Sulamite. Le cantique des cantiques et de Salomon. C'est le cantique de Salomon, c'est-à-dire c'est le cantique de l'époux céleste de l'Église. Le cantique du Salomon qui l'a rédigé, mais qui l'a inspiré, l'autre Salomon. Le grand Salomon, c'est le cantique de l'époux céleste de toute âme rachetée. Et ce cantique va traduire la vie intérieure de cette âme, va traduire la vie intérieure de l'Église, corps de Christ, de tous les membres de l'Église, corps de Christ, par le moyen d'une parabole dont le thème est la recherche mutuelle entre deux fiancés, de deux fiancés l'un vers l'autre. Vous allez me dire peut-être que les fiancés ne se recherchent pas. Vous allez me dire que dans un temps peut-être de rigueur morale, les fiancés n'avaient pas le droit de se rechercher. Ah, je sais bien que il y a quelques décades, ah, on ne laissait pas volontiers une fiancée partir seule et sortir seule avec son fiancé. Oh. Non, bien sûr, mais vous croyez que les fiancés ne se recherchaient pas tout autant que maintenant? Les fiancés se recherchaient, mais bien sûr, et il ne peut pas en être autrement. Celui qui voit la chose en mal, je le dis bien, c'est que il voit la chose à travers le voile de ses propres impuretés, des impuretés qui sont dans son cœur, qu'il les chasse. L'âme rachetée appartient à son Seigneur, elle lui est destinée pour l'éternité. Nos amis qui sont d'ailleurs un jeune couple, n'est-ce pas, là, voyez, eh bien, ils nous ont chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, ce cantique où était exprimée l'appartenance. Je t'appartiens. Eh bien, l'âme rachetée appartient à son Seigneur, elle lui est destinée. Alors, quels vont être ses premiers soupirs? Les premiers soupirs, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. On va trouver ça peut-être inconvenant. Pas inconvenant. Il n'est pas dit d'ailleurs que ces baisers sont donnés sur la bouche, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Ça peut être sur sa joue. Pourquoi voulez-vous que ce soit? Alors, vous me direz, mais, et moi je vous répondrai, mais, est-ce que les fiancés ne se sont jamais embrassés? Celui qui étant marié peut dire qu'il n'a jamais embrassé sa fiancée, qu'il jette le premier la pierre. Les fiancés ne se sont-ils jamais embrassés? N'est-ce pas ce qui traduit l'élan de l'un pour l'autre? S'ils vont faire, ils vont se voir, ils vont se regarder dans les yeux, ils vont se rapprocher, ils vont s'embrasser. C'est pas bien, ça. C'est pas la réalité humaine, ça. Alors, il faut supprimer ça de la réalité humaine si on n'est pas d'accord, si on trouve que c'est pas convenable. L'amour de leur cœur les rapproche. Et les époux ne s'embrassent plus. Les époux ne s'aiment plus. Quand le temps, peut-être, n'est-ce pas, des amours ardentes est passé et que les ans sont venus Bon, alors on pourrait dire, bon, les époux ils vivent ensemble, ils sont compagnons l'un de l'autre. J'ai vu l'autre jour à Alès, dans l'assemblée, un homme m'a présenté, il était dans les pleurs, les larmes presque inconsolables, et il avait 70 ans passés. Alors, j'ai demandé ce qui l'affectait ainsi, on m'a dit, vient de perdre son épouse. Mais je vous assure que cet homme était à la dérive, il a fallu évidemment, n'est-ce pas, faire appel à la foi, à sa foi, n'est-ce pas, mais enfin, il était inconsolable sur le moment. Ah, il était affecté d'un grand, grand chagrin. Il aimait sa compagne. Et quand, pour libérer son cœur, dans l'entretien que j'ai eu avec lui, je lui ai dit, mais voyons, vous l'aimiez, votre compagne, votre épouse? Ah oui, je l'aimais. Il y avait un amour, il y a un amour pour tous les âges. C'est le même qui traverse les temps, qui traverse les âges. Mais il y avait un amour, il y a un amour, n'est-ce pas? Alors, les époux ne s'embrassent-ils plus? N'ont-ils plus le droit de s'embrasser? Et j'irai même plus loin, je dirais, une mère, lorsqu'elle n'a pas vu son fils ou sa fille depuis longtemps, qu'elle le voit, une mère qui vraiment, n'est-ce pas, a de l'amour dans le cœur pour ses enfants, elle pense à eux, elle leur écrit. Alors, voici qu'après une longue absence, ils arrivent, c'est un fils, c'est une fille. Alors, la mère les prend, les serre dans ses bras, les couvre de larmes et de baisers. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Oh, le grand malheur. Mais, mes amis, enfin tout de même, vous voyez qu'il y a une optique affreuse qui est de notre fait. Changeons notre cœur, ayons un cœur nouveau et voyons ces choses. C'est la parabole, c'est le support, c'est le littéral, c'est le sens littéral, cela. Bien sûr, nous voyons l'idée, nous allons voir, n'est-ce pas, l'idée, évidemment. Eh bien, l'idée, c'est l'âme, la sulamite, qui soupire après une communion aussi étroite que possible. La sulamite est une fiancée. Alors, elle proclame son aspiration dans le cadre humain. Dans le cadre humain qui est le support, je le répète, de la pensée spirituelle, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Comment va-t-elle exprimer? Qu'il s'approche de moi, qu'il soit à 5 mètres, pas davantage, et que nous nous fassions bonjour de loin, n'est-ce pas? Et que nous nous regardions avec un petit sourire, seulement, c'est tout. Oh, c'est pas humain, ça, ce serait pas un vrai support, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ici, la sulamite proclame donc son aspiration dans le cadre humain. Mais cette aspiration, nous savons qu'elle est spirituelle, il s'agit de l'âme. La sulamite a cessé de concevoir sa vie dans la séparation qui est celle d'un jeune homme, d'une jeune fille avant de se marier. La sulamite a cessé de concevoir sa vie ainsi. Elle ne peut plus vivre désormais que de l'amour de son bien-aimé. Elle a soif de Dieu, elle a soif de lui. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Elle le veut loin? Non, elle le veut là, près. Elle a soif de lui. Que connaissait-elle jusque-là, la sulamite? Elle connaissait ce qu'elle appelle ici le vin. Car ton amour vaut mieux que le vin. Nous pouvons le comprendre peut-être de deux manières. J'en dirai une déjà et je l'écarterai plus tôt. Le vin, n'est-ce pas, qui, dans la Bible, je parle bien de la Bible, peut communiquer une certaine ivresse, n'est-ce pas, un certain élan. Là pourrait être aussi le support de la pensée, voyez-vous. N'est-ce pas? Ton amour vaut mieux que le vin, vaut mieux que cette gaieté, que cette, sans que ce soit une ivresse poussée à l'extrême, enfin, disons que cette gaieté, n'est-ce pas, qui jusque-là était ce que connaissait la sulamite, elle ne connaissait que cela, ce qu'il y avait dans le monde, elle ne connaissait que cela, mais la deuxième manière de le voir est celle-ci, eh bien, jusque-là, la sulamite ne connaissait que le vin, c'est-à-dire les rencontres joyeuses, où l'on goûte le vin. Quand il y avait des rencontres en famille, voyez les noces de Cana, il y avait du vin. C'était ainsi, c'était pas un vin très fort d'ailleurs, mais enfin, il y avait du vin. et l'on goûtait le vin, et le vin est synonyme de l'amitié, de l'affection, du cadre habituel, des relations humaines. Quand on se rencontre, c'est bien rare aujourd'hui qu'on vous dise pas, dis pas, on va boire un pot, mais on va mettre un verre. On va mettre un verre, n'est-ce pas? On va goûter, on va boire ensemble quelque chose. C'est dans le cadre des relations humaines. Il n'y a pas là de quoi s'offusquer, n'est-ce pas? Eh bien, elle connaissait cela jusque-là. Elle connaissait l'amitié, elle connaissait l'affection qu'il y a dans les relations humaines. Mais voici, un amour ardent s'est emparé d'elle. Elle a rencontré le roi, le bien-aimé. Et cet amour est entièrement destiné au bien-aimé, il n'y a que le bien-aimé qui peut lui donner l'amour. Ton amour vaut mieux que le vin, vaut mieux que ce qu'on trouve dans le monde, les affections du monde, les amitiés du monde, ça vaut bien mieux que tout cela. Ton amour, ce n'est pas vrai? C'est pas vrai, ça? Ah, mes amis, comment voulez-vous que la Bible s'exprime? Alors, si la Bible s'était exprimée en termes purement spirituels, vous n'y comprendrez rien, moi non plus. Ah, mais je comprends parce qu'il y a, un marchepied. Il y a un marchepied. La terre et le marchepied. Avec la terre et le marchepied. Alors le marchepied pour arriver aux choses spirituelles. Le Seigneur Jésus nous a dit, si vous ne croyez quand je vous ai annoncé des choses terrestres, des événements qui se passent dans le cadre historique, qui se passent dans les relations entre les hommes, des choses que les hommes ont vues, qui étaient déjà l'introduction du surnaturel. Si vous ne croyez pas ces choses, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles? Et le Seigneur n'a pu parler des choses spirituelles qu'à la fin de son séjour sur la terre. Et encore, disait-il, il y a des choses que j'ai à vous dire et vous ne pouvez pas porter maintenant. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Alors je ne peux pas vous les dire. Et le cantique des cantiques les contient, ces choses. Il les contient. À nous de savoir le comprendre. Ton amour vaut bien mieux que tout ce qu'on connaît sur la terre, tout ce qu'on a connu avant tout cela, c'est bien peu de choses, à côté de ton amour, Seigneur. Amen.